l'absence de cet ensemble sur la population ou sur la santé de la population?
Malheureusement, la population paie le prix fort, à savoir avec une mortalité. On meurt de maladies et de causes qui ailleurs, les personnes seraient sauvées, ça c'est clair. Donc c'est un ensemble, ressources humaines, infrastructures, formation, vision, monitoring, sanctions.
Des sanctions contre les mauvais agents?
Quand les gens ne font pas le travail pour lequel ils sont payés, sanctions, tout ça mis ensemble, c'est que si tout ça était amélioré, je suis sûre qu'il y aurait un mieux dans la mortalité de notre population.
La Fondation a mis en place un grand laboratoire. Quel est l'impact de ce laboratoire au sein de la population et dans le milieu scientifique africain?
Au sein de la population, je ne dirais pas que l'impact est visible pour le moment, parce que nous formons par exemple des jeunes docteurs.
Former un docteur, ça demande beaucoup de temps, c'est un investissement à long terme.
La formation d'un docteur, c'est minimum 3 ans, maximum 5 ans. Donc c'est un investissement sur le long terme. Et ensuite, il va travailler et là devient productif.
Combien de docteurs avez-vous déjà formés, si vous pouvez connaître le nombre ou de façon approximative?
Nous avons maintenant formé plus d'une dizaine de jeunes docteurs congolais qui sont déployés dans le pays. Et c'est un nouvel esprit que nous insufflons. Donc pour moi, je pense qu'on commencera à voir l'impact de la Fondation dans les 5-10 prochaines années. Oui, on se rendra compte. Tiens, j'ai été formée à un moment donné ou à un autre par la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Et j'agis de telle manière parce que c'est ça ma formation.
Quel est le profit des personnes que vous formez? Seulement des scientifiques?
Nous ne formons pas seulement scientifiquement, mais aussi moralement, en faisant comprendre quelle est notre responsabilité. C'est-à-dire que les moyens que nous mettons sur la tête de nos étudiants, on leur dit que ce n'est pas pour leurs beaux yeux, c'est pour pouvoir rendre ça, pas à la Fondation, mais c'est rendre cet investissement au pays. Et ça, ils le comprennent bien. Et je pense que quand nous aurons comme ça une centaine, 200, plusieurs formés avec cet esprit, l'impact alors sera visible, surtout qu'ils sont compétitifs, ils seront capables d'aller chercher l'argent. Là, moi, je suis, entre guillemets, seule dans cet exercice. Mais imaginons qu'il y ait une centaine comme ça. Après, on aurait beaucoup, beaucoup de possibilités dans le pays.
Vous faites aussi un travail de sensibilisation sur les filières scientifiques. Qu'est-ce que ça donne comme résultat?
Déjà, avec notre programme Femmes et Sciences, la visibilité que nous mettons sur la recherche, l'impact est déjà là. Beaucoup de jeunes gens sont de plus en plus conscients et veulent se lancer dans la recherche. Donc là, déjà, il y a un impact dans l'intérêt, dans la volonté de vouloir s'engager dans la recherche. Donc je pense que là, nous voyons une courbe qui croît. On a une progression vraiment importante des demandes, même on ne peut pas les satisfaire toutes, mais on voit les demandes, on voit l'intérêt même des parents qui viennent poser des questions, qui veulent qu'on conseille leurs enfants. Donc l'impact est là.
C'est très intéressant que les gens viennent vous voir maintenant, mais du coup ça veut dire qu'avant ce n'était pas comme ça.
Il y avait peu de jeunes intéressés à la recherche biomédicale, et pas qu'à la recherche biomédicale, à la recherche tout court, parce que déjà, à l'image du chercheur au Congo, c'est un pauvre le chercheur. Il fait pitié le chercheur au Congo. Il a un salaire de misère. Il fait plus de 10 ans d'études, mais il a un salaire de misère. Personne n'a envie de faire 10 ans d'études et ressembler à un miséreux. Alors que un médecin, pour le même nombre d'années, le métier est valorisé. Un scientifique, pour le même nombre d'années, voire plus, c'est un métier peu valorisé. Il n'a pas les moyens, on ne lui donne pas les moyens de travailler, on ne lui donne pas le salaire en reconnaissance de sa formation. Pensez-vous que cela donne envie? Bien sûr que non. Donc il fallait donner une image positive de ce métier et c'est ce que la Fondation congolaise a essayé de faire.
Dans la pratique, comment se passe cette valorisation? Comment vous y prenez-vous pour valoriser les filières scientifiques ou la recherche médicale?
En donnant à ceux qui travaillent, en tout cas à la Fondation, un salaire décent qui leur permette de vivre correctement et de montrer qu'on peut s'épanouir dans la recherche au Congo. Mais pour ça, il faut savoir aller chercher ces financements en attendant que le pays puisse mettre sur la table les moyens que l'on met réellement sur la table d'un chercheur pour qu'il réponde aux besoins du pays. Il fallait leur redonner une image positive. Bon, moi, je suis venue de l'extérieur avec cette image positive parce qu'on ne s'engage pas dans la recherche pour être milliardaire.
Ça serait donc par passion?
Oui, il faut aller dans la recherche privée, dans l'industrie pharmaceutique. Mais on ne va pas à l'université ou dans une institution de recherche pour être riche, non. C'est parce qu'on est passionné par la recherche. Mais on peut être passionné, mais pour autant, on veut pouvoir nourrir sa famille. On veut pouvoir vivre décemment de son travail. Donc ça, c'était important de montrer que c'était possible de vivre décemment au Congo en étant scientifique. Mais il faut que le pays puisse encourager correctement ces scientifiques.
Comment pourrait-on encourager les jeunes à embrasser des domaines comme la recherche médicale?
Pour les encourager correctement, il faut qu'ils aient compris quel est le poids du chercheur. Parce que là, le chercheur était minimisé parce que je pense que nos autorités ne mesurent pas ou ne mesuraient pas l'importance du scientifique. Dans le monde entier, ailleurs, tous les pays industrialisés ont compris. La Chine a progressé très vite. Pourquoi? Mais parce qu'elle a su faire revenir tous ces scientifiques formés aux États-Unis. Aux États-Unis, vous savez bien que vous allez dans les laboratoires, les trois quarts, il y a beaucoup d'Asiatiques. Et ce sont eux qui tiennent les labos, c'est eux la connaissance. Si on sait faire revenir sa diaspora, qui a une très bonne connaissance, mais cette diaspora va faire un bond dans le pays.
Et cela pourrait booster les progrès.
Et quand si on leur met les moyens d'utiliser ce qu'ils ont appris ailleurs, les progrès vont aller extrêmement vite. Les autres ont compris ça, donc il faut faire revenir les scientifiques congolais qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, pour qu'ils viennent appliquer ce qu'ils ont appris là-bas, ici.
Comment s'y prendre pour attirer ces scientifiques qui sont à l'extérieur?
Pour les attirer, il faut qu'ils puissent nourrir leur famille. Il faut qu'ils puissent vivre correctement. Sinon, personne ne viendra, bien entendu. Personne. Les gens, quand même, veulent vivre correctement. Ils n'ont pas fait 15 ans, 10 ans d'études pour vivre comme des mendiants. C'est pas possible. C'est pas possible.
Ça fait 10 ans, presque 11 ans, que la Fondation congolaise pour la recherche médicale existe. Quels sont vos projets d'avenir?
Les projets, c'est continuer, c'est augmenter. Nous mettons en place des équipes multidisciplinaires. Par exemple, on a formé un bioinformaticien. C'est le premier bioinformaticien formé. Nous voulons que lui puisse former plusieurs bioinformaticiens, plusieurs, qui est beaucoup de biostatisticiens en recherche biomédicale et en sciences humaines. Donc, on veut que dans chaque discipline, il y a une pépinière. Ça, c'est notre vision. Maintenant, au niveau de la Fondation congolaise pour la recherche médicale, nous avons maintenant un centre de recherche sur les maladies infectieuses qui est soutenu par la Fondation Mérieux.
La Fondation, elle a des partenaires qui la soutiennent financièrement?
De plus en plus de bailleurs de fonds internationaux qui voient que ce que nous faisons un travail de qualité, je voudrais que la Fondation devienne de plus en plus puissante, de plus en plus forte, qu'elle puisse mieux répondre aux besoins, mieux assister le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche, mieux l'appuyer pour pouvoir répondre aux besoins de santé de la population. Parce que, encore une fois, on ne peut pas tout attendre aussi du gouvernement. Quand on regarde la recherche en France, par exemple, que je connais bien, il y a le secteur privé et le secteur gouvernemental, le secteur public. Et il faut que les deux marchent main dans la main. Et donc, au Congo, si on veut que ça fonctionne, il faut la même chose. Je ne vois pas pourquoi dans les pays dits développés, ils ont compris que le secteur public à lui seul ne peut pas s'en sortir et qu'au Congo, le secteur public serait champion et pourrait s'en sortir. Ce n'est pas vrai.
Professeur, quelle est alors votre vision?
Pour moi, la vision, c'est que la Fondation soit de plus en plus forte pour pouvoir jouer encore mieux son rôle, qui a un impact visible. Je voudrais qu'il y ait un impact visible sur la population, sur la santé de la population congolaise.
Merci beaucoup, professeur. Mais la recherche en général était un domaine plutôt dominé par les hommes. Comment appréciez-vous l'engagement des femmes dans le domaine de la recherche médicale, soit au Congo, soit en Afrique?
Dans la recherche scientifique, en Afrique, il y a environ 30% de femmes. Au Congo, on est à 10-13% selon l'UNESCO. Bon, c'est pas beaucoup, c'est très faible. On est parmi les derniers. Donc, l'engagement des femmes dans les sciences est encore faible. Il y a un effort là aussi, les stéréotypes sur les femmes engagées dans les sciences sont négatifs et donc ne donnent pas l'envie aux femmes de s'engager. Et là aussi, il faut donc casser ces stéréotypes et la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale s'y emploie.
Comment vous y prenez-vous ?
En menant des campagnes de sensibilisation au sein de la population, dans les écoles, à l'université, à la télévision, à la radio. Déjà, moi, je suis une femme et je dirige la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale. C'est la première fondation de ce type au Congo, donc dirigée par une femme.
Un très bel exemple.
Je pense que j'ai montré qu'en tant que femme, j'ai pu, à titre personnel, montrer que j'étais une bonne scientifique. Donc, je montre par mon exemple que c'est possible pour une femme congolaise d'avoir du succès dans les sciences. Et donc ça, c'était important aussi de montrer cela parce qu'en Afrique, il y a un manque cruel de modèles auxquels les jeunes puissent s'identifier. Parce que quand on a 10, 12 ans, on a envie de ressembler à quelqu'un. Nous nous employons à essayer de mettre en lumière les femmes scientifiques pour donner envie aux jeunes filles, aux élèves, aux écolières, de rêver de devenir des femmes scientifiques.
Merci beaucoup, professeur, d'avoir été notre invité pour cette émission.
Ben, c'est moi qui vous remercie pour cet entretien.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
C'était l'interview que nous a accordé le professeur Francine Ntoumi, biologiste moléculaire. Le professeur Ntoumi est aussi présidente de la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale à Brazzaville au Congo. Elle forme également des étudiants et des personnels en recherche biomédicale. Maintenant, vous allez suivre Carnet de Santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de Santé, il y a 25 ans de cela, qu'un médicament contre le VIH-Sida révolutionnait la prise en charge des malades. Nous jetons un regard. Un expert fait le point sur la lutte contre le VIH à l'ombre de la pandémie de coronavirus. Ensuite, des chercheurs en Suède sont optimistes quant à un traitement qui pourrait ralentir la progression de COVID-19. Enfin, nous nous rendons à Hawassa, en Éthiopie, où de jeunes innovateurs ont fabriqué une ambulance hors du commun et peu coûteuse. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bienvenue et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. Un nouveau rapport de l'ONU-SIDA, l'Agence des Nations Unies contre le SIDA, indique que les objectifs fixés pour 2020 concernant la maladie, tels que la réduction des nouveaux taux d'infection et l'augmentation de l'accès au traitement, ne seront pas atteints. Ceci est dû en partie à l'accès inégal au traitement antirétroviral et aux interruptions de services causées par la pandémie de COVID-19. Selon les Nations Unies, 38 millions de personnes dans le monde étaient infectées par le virus VIH en 2019, soit 1 million de personnes de plus qu'en 2018. Il y a 25 ans, un essai clinique aux États-Unis testait un médicament qui s'est ensuite révélé être le premier traitement efficace du VIH-Sida. Caroline Presutti de la VOA nous présente un homme qui ne serait pas en vie aujourd'hui sans l'avènement de ces médicaments.
Kevin Lee Taylor avait 22 ans lorsqu'une infirmière lui a dit qu'il était positif au VIH, le virus de l'immunodéficience humaine.
Et je l'ai regardée comme, je suis désolé, qu'est-ce que j'ai fait? Et elle semblait vouloir dire, vous connaissez le VIH? Non, je ne sais pas, je n'ai jamais entendu parler du VIH.
Un médecin est alors entré dans la pièce et a dit à Taylor,
mettez vos affaires en ordre, parce qu'il n'y a pas de remède, il n'y a pas de traitement. Nous ne pouvons rien faire.
There's nothing we can do.
Choqué et engourdi, Taylor retourna à son domicile de Richmond en Virginie. C'était en 1985. Le VIH, le virus qui cause le sida, était stigmatisé. Beaucoup de ceux qui avaient le virus étaient évités. Ce que Taylor a vu dans un reportage cette nuit-là.
Des protestations ont éclaté dans une école de l'Indiana contre la présence de Ryan White, un étudiant diagnostiqué avec le sida après une transfusion sanguine.
J'ai pensé à moi-même, vous savez, ils sont si hostiles envers un petit garçon de 9 ans. Pouvez-vous imaginer comment ils vont réagir face à moi?
Alors Taylor, un homosexuel, n'a rien dit à personne et n'a présenté aucun symptôme pendant des années. Finalement, il a été hospitalisé lorsque son système immunitaire s'est effondré. Son VIH s'est transformé en sida. Il n'y avait aucun traitement efficace contre le sida.
Je déteste être franc, mais cela tue les homosexuels. Alors qui s'en soucie?
Pendant des années, des groupes comme ACAP ont organisé des manifestations bruyantes, exigeant plus de financement pour les traitements contre le VIH-Sida. En juin 1995, la FDA a autorisé une étude du lisinopril, le premier inhibiteur de protéase. En décembre, vitesse fulgurante pour le gouvernement, il a été approuvé dans le cadre du premier cocktail thérapeutique efficace et durable. Pendant des décennies, le docteur Anthony Fauci a dirigé les efforts du gouvernement américain contre le VIH.
Cela a complètement transformé la vie des personnes affectées par le VIH, car c'était la première fois que nous disposions d'un médicament très très efficace contre le VIH.
Aujourd'hui, plus d'un million d'Américains et plus de 37 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH. Alors que les taux de mortalité ont grandement baissé, il n'y a toujours pas de vaccin ni de remède contre le VIH.
L'Afrique du Sud est l'un des pays les plus touchés par l'épidémie du sida. Anita Powell de la VOA s'est entretenue avec quelques personnes qui ont fait partie de la lutte contre la maladie mortelle dès les débuts de la crise dans le pays.
L'Afrique du Sud a le taux d'infection du VIH le plus élevé au monde, avec quelque 7,7 millions de cas connus, et gère également le plus grand programme gouvernemental de traitement antirétroviral au monde. Ce programme se trouve maintenant au milieu d'une autre pandémie mondiale, 25 ans depuis qu'il est devenu possible, grâce aux antirétroviraux, de vivre avec le VIH.
À l'époque, ce n'était pas facile, car au moment où vous allez commencer le traitement, on vous dit que c'est pour la vie. Et puis, lorsque vous commencez à prendre les médicaments, cela vous rappelle que vous avez le virus et que vous aurez quelque chose que les autres n'ont pas. Et vous avez peur et vous devez passer par certaines étapes parce que vous devez vous accepter.
Les personnes impliquées dans le voyage soulignent deux années record. 2004, lorsque l'Afrique du Sud a déployé son programme antirétroviral de masse, et 2009, lorsqu'après des années de déni sous le président Thabo Mbeki, son successeur, le président Jacob Zuma, a annoncé des changements politiques donnant un accès élargi au traitement. Alors que les autorités s'apprêtaient à annoncer les progrès réalisés au cours du dernier quart de siècle, une autre pandémie a frappé, le nouveau coronavirus. En ces temps difficiles, Pagwe dit que la source la plus importante se trouve juste devant vous. Si nous sommes unis, dit-elle, même en ces jours difficiles de peur virale et d'indignation du public face aux inégalités, nous pouvons réussir.
Où en est l'épidémie du sida en Afrique et quel est l'impact de COVID-19 sur les services de prévention et de traitement du sida? Pour répondre à nos questions, je me suis entretenue avec le docteur Nioblé Cyprien, directeur technique des programmes avec Djepaygo Côte d'Ivoire.
L'épidémie, il y a bientôt plus de 30 ans que le VIH est apparu dans nos différentes régions. Au départ, c'était un sujet tabou, on parlait même de sida. On voyait quelqu'un amaigri partout, on dit ça, celui-là, il a le sida. Mais Dieu merci, le langage a changé. La société a compris que c'est une pandémie. C'est une pandémie à laquelle il faut faire face. Au départ, le traitement était payant, il était coûteux. Donc seulement ceux qui avaient les moyens avaient accès au traitement. Et quand nous on a commencé à prescrire, le traitement était à 5000 francs, ensuite 3000 et 1000 francs et 0 francs aujourd'hui. Ça, c'est un grand bond dans l'accès au traitement. L'objectif, c'est l'élimination de l'infection à VIH, qui parle d'élimination, parle du diagnostic. Il faut que toutes les personnes qui sont censées être séropositives connaissent leur statut.
Alors que la recherche bat son plein pour la prévention et le traitement de COVID-19, des scientifiques en Suède sont optimistes quant à leur travail sur un traitement qui pourrait ralentir la progression de la maladie, soulager les symptômes et sauver des vies. Reportage de Carole Pearson de la VOA.
Tyson pourrait devenir l'alpaga le plus célèbre au monde. Des chercheurs de l'Institut Karolinska de Stockholm l'ont immunisé avec des protéines de coronavirus et extrait de son sang de minuscules anticorps appelés nanocorps. Les anticorps sont des protéines produites par le système immunitaire lorsqu'il détecte que le corps a été infecté par un virus ou un corps étranger. Le rôle des protéines est alors de tuer ce virus. Les nanocorps sont beaucoup plus petits que les anticorps produits par le corps humain et les nanocorps se lient à la même partie du virus que les anticorps humains. Gerald McInerney est l'un des scientifiques travaillant sur ce projet.
Ce sont les anticorps que nous avons prélevés sur les cellules sanguines de l'alpaga et nous pouvons voir que ces anticorps sont liés directement à la surface, exactement à l'endroit où la protéine virale doit pénétrer dans les cellules. Cela nous donne donc une compréhension structurelle de la façon dont ces anticorps fonctionnent pour arrêter l'infection.
Les recherches pourraient conduire à un médicament qui aiderait à réduire la charge virale dans le sang du patient et permettrait au système immunitaire de développer sa propre réponse à l'infection.
Tout indique que ce processus fonctionnerait très bien chez l'homme, mais étant donné que c'est un système très complexe, nous avons hâte de commencer les expériences.
Le développement d'un vaccin pourrait prendre des années. C'est pourquoi les scientifiques de l'Institut Karolinska se concentrent sur la recherche d'un traitement qui pourrait permettre de freiner la pandémie pendant le développement du vaccin qui offrirait une immunité à long terme.
Rendons-nous à présent à Hawassa, en Éthiopie, pour découvrir un innovateur qui, avec des partenaires, a fabriqué une ambulance à moto afin de desservir les communautés confrontées au manque d'accès facile et abordable aux services d'ambulance.
Je m'appelle Binyam Assad, nous venons du Friendship Electromedical Enterprise. Comme vous pouvez le voir, nous avons inventé une moto-ambulance. Elle peut transporter une personne et est connectée au moteur. Elle est inventée pour se mouvoir le long de la route. Vous pouvez la connecter ou la retirer de la moto. Chaque fois que nous voulons la désinfecter ou la réparer, nous pouvons la retirer et la remonter une fois nettoyée. Au départ, nous travaillons sur l'ambulance pour résoudre le problème des femmes rurales en les transportant dans les centres de santé pour accoucher. Souvent, les femmes enceintes sont portées par des gens ou marchent à pied sur de longues distances jusqu'au centre de santé. Avec le COVID-19, nous avons changé son utilisation. Il y a une pénurie d'ambulances dans les villes et même dans les villages, donc cette invention est pratique pour tous. C'est mon père qui a eu l'idée. Il a même aussi esquissé le dessin. C'est une entreprise familiale, donc il y a d'autres bricoleurs qui ont participé. Tout comme l'ambulance classique, elle a une sirène, un petit lit. Nous l'avons construit à partir de matériaux faciles à trouver, ce qui la rend bon marché. Et tout comme l'ambulance classique, nous pouvons transporter un patient d'un endroit à un autre.
Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, on se lave les mains fréquemment. Portez-vous bien et à très bientôt.
C'est ici que prend fin notre magazine Santé, votre avenir de cette semaine. Il était consacré à l'impact de la recherche biomédicale en Afrique sur la santé des populations. Nous avons interviewé le professeur Francine Ntoumi, biologiste moléculaire. Le professeur Ntoumi est aussi présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale à Brazzaville au Congo. Elle forme également des étudiants et des personnels en recherche biomédicale. Ensuite, vous avez suivi Carnet de santé présenté par Linor Moudou. Ce rendez-vous santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Tiro et de Nelson Lopez qui était à la console. Devant ce micro, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.